Africa. Tout feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio. Africa.
Salut à tous, je suis particulièrement heureux de vous retrouver avec une équipe de Tout feu tout foot au grand complet. Il était temps. Il était vraiment temps. Salut Doyen.
Et salut mon
coach. Mais t'es où Doyen? C'est pas vrai ça.
Oui, mais j'étais au Togo.
À ton coin?
Au Togo, à Lomé, au Togo aussi.
À Tocoin aussi.
Donc j'étais dans les stades. Donc
mais il a passé tout son temps à faire des photos au bord de la mer et tout ça.
On l'a vu sur les réseaux sociaux pour ceux qui suivent Willy. Il a la belle vie.
À Lomé, il y a la mer. Hein. Donc,
mais oui, non, c'est pas un marigot là-bas, non.
Non, c'est la mer. Bonsoir les gars, bonsoir Hélène, la belle, toujours belle aussi.
Oh là là,
bonsoir
là.
Maxime.
Mais il revient lui. Hein.
Donc ouais. Tout le monde est présent, bonsoir Chris, bonsoir Kim, bonsoir mon cher coach. Willy.
Ben, salut à Christian aussi, le Benjamin, lui aussi, hein, on est heureux de te voir hein, Christian, ça faisait longtemps.
Salut coach, oui ça faisait longtemps, hein. Je me demandais si tu t'étais remis de la défaite du Sénégal et du sacre de l'Algérie.
Merci Christian.
J'aime pas le foot moi, j'aime pas le foot.
Bonsoir à toute l'équipe, bis à Hélène à la réalisation et coucou à tous nos auditeurs.
Hakim, c'était le plus assidu là. Hakim, comment ça va bien?
Coach Lamine, ça va. Très content aussi de retrouver toute l'équipe, bien sûr, avec aussi Hélène, hein, la réalisation de cette émission. Mais aussi très très heureux, Coach Lamine, de retrouver les auditeurs et les auditrices d'Africa Radio.
Alors, je vous rappelle que cette émission est réalisée par Hélène Bizio, la blonde. Et messieurs, dans ce numéro de Tout Foot Tout Foot, nous allons décortiquer, comme à chaque fois, les championnats africains avec les résultats complets du CHAN. Nous parlerons toujours sur le continent des brèves concernant la nomination au Cameroun et en Guinée de nouveaux sélectionneurs. On va en discuter, décortiquer tout cela, ouais. Savoir si ce sont des touristes ou pas. Nous reviendrons enfin sur les championnats européens avec ceux de l'Espagne, de l'Angleterre et de la France. Et nous commençons, avant de commencer, bien sûr, il y a un petit jingle.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Et nous commençons par les championnats africains avec le CHAN et les résultats complets, Christian Chan.
Oui, exact coach, c'était le dernier tour pour les éliminatoires de la CHAN, la phase aller. On va donner les résultats, il y a eu 15 matchs qui ont eu lieu ce week-end, donc on va donner tous les résultats. La République centrafricaine a perdu face à la RDC 2-0, la Guinée équatoriale a fait match nul 2-0 face au Congo Brazzaville, Burundi-Ouganda 3-0 pour l'Ouganda, l'Éthiopie a perdu face au Rwanda 1-0, la Tanzanie a perdu face au Soudan 1-0, l'Eswatini a perdu face à la Zambie 1-0, Madagascar a battu la Namibie 1-0, Zimbabwe 3, Lesotho 1, Algérie-Maroc 0-0, Tunisie-Libye 1-0 pour la Tunisie, 0-0 entre la Mauritanie et le Mali, 1-0 pour le Sénégal face à la Guinée. Le Togo, bon résultat pour le Togo, a battu le Nigeria 4-1. Le Niger a battu la Côte d'Ivoire. Togo-Nigeria, bon résultat pour le Togo, 4-1 face au Nigeria. Le Niger a battu la Côte d'Ivoire 2-0. Et le Ghana a perdu face au Burkina Faso 1-0. La manche retour, elle, aura lieu dans un mois, entre le 18 et le 20 octobre. Et on rappelle que le Cameroun est qualifié en tant que pays hôte et qualifié d'office.
Alors messieurs, on va parler quand même de Madagascar qui continue réellement son bon
petit bonhomme de chemin. Après la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que c'est essentiel de dire que on a eu des révélations, mais qui confirment ces derniers temps. On en a vu aussi, coach Lamine, des belles rentrées aussi. Là, c'était la semaine dernière avec bien sûr des clubs de Madagascar qui ont réussi à s'imposer en Ligue des Champions africaine, en Coupe de la Confédération. On a vu de belles surprises. Je pense que Willy, Christian, nous contrediront pas si on dit effectivement que le football malgache se porte bien aujourd'hui et il va en tout cas vers le bon sens.
Oui, mais comme on disait, et le cas malgache, c'est pas un hasard. Donc on le voit là, ça se précise. Donc il y avait du travail. On le savait tous ici que les Malgaches ont mis en place une formation. Donc on a vu au niveau de la sélection et au niveau des clubs. Donc c'est bravo pour les Malgaches et ceux qui veulent suivre l'exemple malgache n'ont qu'à le faire parce que le travail ça paye.
Oui, coach, sur cette rencontre, 1-0 pour l'équipe de Madagascar. Donc c'est un bon résultat face à la Namibie, si je ne me trompe pas. Après, il faut quand même rappeler que ça a été un match difficile entre les deux équipes. Et Madagascar s'est imposé en toute fin de rencontre, mais c'est un résultat... Exactement, là, 92-93. Mais c'est un résultat important, c'est bien. Ils sont dans la continuité...
Ouais, on est face à la Namibie, il faut pas...
Bien sûr, exactement, c'est ça.
Et puis, il y a un match de tour. Il ne faut pas qu'on commence ensuite à dire, oui, ça y est...
Non, tout à fait, tu as raison. Il faut rester mesuré quand même.
La Coupe d'Afrique des Nations.
Il faut rester mesuré.
Par hasard, Madagascar c'est abattu
Là, je vois où tu veux en venir. Moi, je tiens à saluer quand même, bien sûr. C'est vrai que la performance malgache, elle est à noter. Après, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Maintenant, on le sait, la Namibie, c'est une terre de sport. On voit effectivement, on a vu la Namibie face à une équipe de rugby il y a pas si longtemps, c'était il y a 2-3 jours, faire un beau match contre les Italiens en Coupe du Monde. La Namibie, ça reste une terre de sport. Et comme tu le dis, effectivement, je pense qu'il faudra se méfier lors de la rencontre retour qui va avoir lieu, comme l'a dit Christian.
Faisons le bilan.
Après, coach, moi, je dirais jamais rien contre Madagascar. Ils ont éliminé la RD Congo lors de la dernière CAN, donc j'ai encore un plus grand respect pour cette terre de football.
Je crois que ce qu'ils ont réussi à faire à la Coupe d'Afrique des Nations, même si les auditeurs malgaches m'en voudront, ils sont incapables de le refaire, j'en suis persuadé.
Je suis pas d'accord.
Mais heureusement que t'es pas d'accord contre qui, c'est pas mon problème.
La Namibie.
Qui?
Contre la Namibie, c'est pas contre le Comore ni.
Exactement.
Sabine Nassourdine.
Sabine Nassourdine. Oui, c'est clair. Net, hein. En tout cas, c'est 1-0, on verra sur le match retour, en tout cas.
Oui.
Alors, autre match aussi, c'est comment on appelle ça, l'autre match, donnez-nous les résultats.
Oui,
on a eu un derby entre
la République centrafricaine et la RD Congo à Bangui, ça s'est joué, victoire de la RD Congo 2-0. Il y avait quand même beaucoup d'absents, mais il y a quand même, c'est une terre de football, hein, la RD Congo, donc il y a beaucoup de bons joueurs. Mention spéciale à Moulenga qui a fait un très bon match au niveau de l'attaque et qui a réussi à porter l'équipe de RD Congo qui a évité vraiment le traquenard et qui a réussi à se mettre de bonnes chances pour la qualification. La RD Congo fait partie de ces équipes qui ont remporté le plus le CHAN.
Deux fois,
il n'y a pas eu énormément. C'est déjà pas mal.
Qu'est-ce que vous avez là, vous revenez de vacances, vous êtes en train de vous gargariser.
Est-ce que le Sénégal a gagné le CHAN?
Non.
Ouais, mais deux fois, c'est parce que c'est dû au fait qu'ils ont un bon championnat. Parce que ce sont les locaux qui jouent là, et le CHAN.
C'est effectivement la vitrine des joueurs locaux, et ça, c'est important de le dire. Ouais. C'est des compétitions qu'on aime bien. D'ailleurs, Christian en a fait effectivement une superbe expérience du côté du Maroc. Et quand il est revenu avec tous ces sonores, toute cette expérience-là, on l'a senti. Ça reste effectivement des belles compétitions qu'on aime voir pour justement ces joueurs locaux. Et c'est l'occasion aussi de s'exprimer, Woody Dorkenou, à l'échelle continentale. Parce que là, on affronte toutes les nations et il y a toutes les zones qui sont représentées.
Oui, mais c'est selon le CHAN qu'on juge le vrai travail qui est fait sur place. Parce que l'important pour moi, je l'ai toujours répété, que ce sont les championnats locaux qui comptent. Et pour moi, ce n'est pas d'attendre et de convoquer les 23 ailleurs. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il y a il y a certains sélectionneurs qui restent attentifs, coach Lamine, pour les sélections A, sur justement ces compétitions de CHAN, de championnat d'Afrique des Nations. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, ça reste la vitrine du football local. Après avoir commenté 4 éditions de championnat d'Afrique des Nations, je peux vous le dire, il y a énormément, coach Lamine, de sélectionneurs A qui viennent justement voir un petit peu l'évolution des joueurs, comment ça se passe tactiquement, d'une manière stratégique. Je pense que c'est important et c'est intéressant.
En tout cas, on ne donnait pas cher de leur peau la RDC, parce que quelques jours plus tôt, ils avaient perdu un match amical et donc on ne les voyait pas trop. Christian Chango arrivait du côté de Bangui pour pouvoir remporter ce match.
C'est vrai, coach, hein, on avait un peu quelques doutes pour en avoir parlé avec un peu de la famille et des confrères aussi du côté de la RD Congo. On était un peu dans l'attente vraiment de cette rencontre, puisque comme tu l'as précisé, le dernier match amical s'était mal déroulé. Il y a un renouvellement de staff aussi au niveau de la RD Congo, on le sait maintenant, donc il fallait voir un peu ce que ça allait donner. Et la RD Congo a bien répondu face à la République centrafricaine. Il faut préciser aussi la Centrafrique a fait un très bon match Pour te dire, comme j'ai pas eu l'occasion de voir tous les matchs, mais j'ai vu ce match-là en particulier. Et la Centrafrique, la République centrafricaine, pardon, a fait un excellent match. Mais la RD Congo a été plus tueur dans les moments clés.
Paris 107.5, Melun 92.3, Mantes-la-Jolie 87.6, Abidjan 91.1, en DAB+, Paris, Lille, Lyon et Strasbourg. Appelez-nous donc pour vous donner, pour nous donner votre sentiment par rapport à ce Chan qui a joué son match aller la semaine dernière, je veux dire le week-end dernier. WhatsApp 33 7 66 19 77 69 et au standard 33 1 55 07 58 00 pour pousser et donner votre avis par rapport à cette équipe et la Côte d'Ivoire, messieurs.
Oui, la Côte d'Ivoire, hein, Côte d'Ivoire, résultat compliqué, défaite 2-0 face
au niveau, hein.
Face au Niger, non, effectivement sur cette rencontre, je me demandais moi un peu ce que ça allait donner. Et, au final, franchement, le Niger a mérité. La Côte d'Ivoire n'a pas été dangereux. Je les ai même trouvés plutôt faibles, à vrai dire. Donc c'est tant mieux pour le Niger, qui a à la fin un bon match. Mais j'ai trouvé la Côte d'Ivoire. Ça fait partie de toutes ces équipes que j'attendais au tournant un peu. Et je les ai trouvés faibles.
Alors, doyen, quand Maxime, comment il s'appelle, Alain Gouaméné, ouais. Qui est le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, dit, sans jeter la pierre à qui que ce soit, je crois que certains n'ont pas le niveau international.
Voilà.
Oui, mais c'est normal, parce que quand on voit le niveau du football local ivoirien, il y a un problème depuis longtemps, c'est pas nouveau. Des problèmes avec la fédération, des problèmes avec des équipes. On a vu entre-temps les CEO Sports, après ils sont effacés. Après on a vu un peu la SEC qui s'est effacé aussi à la suite. Donc le football ivoirien local n'est pas en forme. Donc ça se voit. Mais les Nigériens, ça fait longtemps qu'on les voit aussi, hein, sur le plan international, les Nigériens. Donc la prouesse de battre la Côte d'Ivoire, c'est pas ça.
Ce n'est pas un hasard.
Non, pas
c'est
du
pas
tout.
Un hasard, pas du tout.
Pas du tout.
Oh, ouais. Pourtant, Hakim, il y avait les joueurs de l'ASEC d'Abidjan, les joueurs de San Pedro qui n'étaient pas encore là parce qu'ils étaient en match de qualification pour les clubs. Oui. Est-ce que ça n'a pas joué aussi le fait d'arriver tard quand même?
Si, coach Lamine, ce résultat-là, effectivement, il exprime aussi peut-être l'absence de certains joueurs locaux qui devraient justement participer à ce Chan, mais visiblement, il y a quelques entraîneurs de certains clubs ivoiriens qui ont privilégié la compétition des clubs champions, tels que la Coupe de la Confédération, la Ligue des Champions africaines. On peut l'entendre, on peut respecter, mais quand on a effectivement un Chan qui se joue, allez c'est quoi, c'est tous les deux ans un Chan,
oui, c'est ça.
C'est tous les deux ans, donc profitons de cette occasion-là pour pouvoir justement rafistoler un petit peu la colonne vertébrale de chaque club, de chaque nation, de chaque sélection, puisque c'est l'opportunité, on ne cesse de le redire, le Chan c'est ni plus ni moins, coach Lamine, que la vitrine du football local, et c'est important. Après je peux comprendre que certains entraîneurs ont fait le choix de la compétition, effectivement, des clubs champions, mais je pense qu'il faut à un moment donné peser le pour et le contre et peut-être lâcher quelques joueurs pour ces compétitions-là.
Alors, nous avons aussi des matchs qui se sont déroulés toujours dans le centre. On a eu, donc on en a parlé, République centrafricaine contre RDC. Nous avons eu Burundi-Ouganda 3-0 pour l'Ouganda, il me semble.
C'est ça.
Le Éthiopie-Rwanda, ensuite il y a eu
Tanzanie-Soudan aussi, 1-0 pour le Soudan, dans la zone centre également.
Et dans la zone nord, il y a eu Algérie-Maroc 0-0. Ça, c'était un match aussi qui était.
Oui, c'était un gros match. Hein. Le Maroc est le tenant du titre. Ouais. Comme Hakim l'a précisé, j'y étais l'an dernier quand j'étais parti les voir et c'était la meilleure équipe et de loin. Et c'était un gros match, un derby, hein, entre l'Algérie et le Maroc. Et 0-0 entre les deux nations. Il y a eu de l'animation. Le match a été âpre. Il y a de la technique aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gestes techniques. Par contre, c'était très technique, rapide, mais ça aboutit à un match nul. Ça faisait partie, bien entendu, celle-là, des affiches à voir. Ouais. Et 0-0, mais faut le dire, c'est un beau 0-0, même s'il n'y a pas de vainqueur.
Ouais. Un beau 0-0, oui.
Oui, c'est le score d'un derby. C'est un derby. Donc, les deux. À l'heure actuelle, on voit le football algérien, le football marocain, c'est les deux des meilleurs footballs.
Championnat qui est assez régulier.
C'est ça. Et même l'Algérie a rejoint le Maroc au niveau du football, du championnat local. Ouais. Ils sont bien organisés. Donc,
moi, je pense que,
ouais. Le 0-0, c'est un score de derby, deux grands. Donc ils se sont éliminés, parce que c'est des deux grandes d'Afrique à l'heure actuelle.
Ouais, c'est un score nul et vierge, coach Lamine, c'est pas évident. Maintenant, il y a une rencontre retour le 18 octobre, et là je dirais que l'avantage tournerait plutôt en faveur des Marocains. Pourquoi ? Parce qu'ils ont joué d'abord en Algérie, là ils vont être effectivement, c'est pas très loin, ils sont à quelques kilomètres de chez eux, et les Marocains, je pense que le public en tout cas marocain,
le stade,
il est friand de football local, il est friand de championnat,
ouais, c'est ça.
Championnat, ouais. Coach Lamine, de championnat d'Afrique des Nations. Ils ont vécu effectivement le Chan du côté du Maroc, c'était il y a un an avec Christian qui était là-bas pour nous, et je pense que ça va être un match super attendu, d'autant plus que les Marocains étaient à fond derrière les Algériens. Donc ça va être une ambiance, en même temps, on peut le dire, d'amitié, mais aussi du côté des joueurs, ça va être un choc de rivalité très intéressant à suivre.
En tout cas, du côté marocain, il y avait déjà les forfaits d'Ayoub El Kaabi et Mohamed Ben Halib qui avaient déclaré forfait. Mais bon, on a vu que quand même le coach avait une équipe quand même qui a répondu par rapport au Fennec d'Algérie.
Ouais.
Nous allons aller du côté du Standard, Monsieur Abdouchou, vous êtes avec nous. Bonsoir.
Oui. Allô, oui, bonsoir l'équipe.
Vous salut Abdouchou.
Salut.
Bonsoir.
Ouais, ça fait un moment. Hein.
Oui, ouais, pareil.
Vous avez passé bonnes vacances.
Oui.
Ouais.
Nous, on a travaillé, nous.
Ah, c'est la grande rentrée, là.
Ça se prépare bien. Oui, on vous écoute.
Je vais commencer pour Big Up aussi, faire un gros coucou à Fatou Birama avant de démarrer l'émission. Voilà, quoi. J'appelle par rapport à la finale de la CAN. Bon, je vais pas le faire rappeler parce que
Abdouchou, la CAN, elle est finie depuis 3 mois. Pardon.
Non, mais
nous sommes en train de parler du CHAN. Le CHAN. S'il vous plaît.
Je parle pour. En fait, c'est pour l'évolution, pour le futur, pour l'équipe du Sénégal.
Vous allez voir qu'on peut en discuter quand vous voudrez, mais là, il y a beaucoup de monde. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'équipe du Sénégal contre la Guinée.
1-0 pour le Sénégal.
Voilà. Vous serez dans l'actualité, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, nous, on a fini avec et on n'aime pas le foot.
Bah si, on aime le foot.
T'as pas vu le match, on a vu ton dos, c'est bon, t'as pas vu le match, il y a pas de problème.
Non, mais attendez, non, parce que oui, contre la Guinée, c'était plutôt un bon match. Après, le côté guinéen, bon, ils avaient un peu, moi je trouve, ils avaient un peu la possession. En première mi-temps, ils ont fait pas mal de dégâts sur la défense du Sénégalaise. Après, en deuxième mi-temps, le Sénégal s'est rattrapé. Enfin, ils ont attendu en fin de 10, avant les 10 dernières minutes pour mettre un but. Bon. Après, je trouve que le match a été vraiment plaisant, bon, avec pas mal de cases. Et à souligner que le coach du Sénégal qui a fait des beaux changements à la mi-temps, je trouve. Ils ont fait des bons changements qui ont apporté ses fruits, quoi. C'est pour ça, après, maintenant, bon, ils ont mené au score. Bon.
Ok. Merci Abdouchou.
Après, pour l'équipe A, franchement, l'équipe A. Moi, contre le Brésil, on en parlera, franchement. Contre le Brésil, moi, je vois. Que si c'est apporte du changement au niveau du milieu de terrain, c'est que vraiment au milieu de terrain nous a fait vraiment un peu de peine, un peu, parce que moi je trouve il n'y avait pas de jeu. Mmh. Et après niveau de la, et en fait quand le milieu de terrain est désorganisé comme on a vu à la dernière CAN, ça peut être préjudice pour les autres compartiments, qui est l'attaque ou la défense.
Ah bon.
Du coup, le milieu, c'est le moteur, hein. d'une équipe.
Vous avez vu que l'équipe du Sénégal, au niveau de son milieu de terrain, a laissé, était désarticulée.
Oui, voilà, ouais, complètement, hein, complètement.
Ah bon. Parce que,
oui, de toute façon, tout le monde le sait. La dernière CAN, bon après, on est tombé. Bon, on a eu un parcours plutôt favorable parce que bon, on tombe contre l'Ouganda en huitième et Bénin. Bon, sans manquer de respect à ces équipes. Hein. Après, si on regarde le tableau, par exemple, de l'Algérie, voilà quoi, on sait quoi.
D'accord.
On sait que vraiment que en fait c'est juste sur cette phase de jeu, le milieu de terrain qu'on doit vraiment vraiment évoluer.
Okay. C'est important. On a bien compris, on va appeler Aliou Cissé et on le lui dira de la part de Abdouchou Christian Chango.
Merci les gars.
Merci. Donc, Christian Chango, 1-0 sur le fil pour l'équipe du Sénégal. Ça a été un match assez difficile dès le départ, mais que dans ce choc où le Sénégal, qui était quand même un peu inquiété par la Guinée, parce qu'on a vu quand même une équipe guinéenne pas mal du tout. Et puis il y a quand même une histoire quand même assez incroyable entre la Guinée et le Sénégal, parce que tous ces temps-ci, ce sont deux équipes qui se rencontrent assez souvent.
Oui, c'est un derby aussi.
Oui, tout
mais
à fait.
Il faut aussi voir le niveau du football guinéen. Et ils ont, à l'heure actuelle, ils ont un très très bon niveau. Donc 1-0, c'est un bon score pour le Sénégal.
Un but qui a été marqué à la 87e minute.
C'est ce que je dis. Donc la Guinée, on doit respecter ce pays en football.
Elle a privé deux fois le Sénégal de précédentes éditions. Donc
pour moi, c'est un bon score pour le Sénégal, parce que la Guinée, c'est pas n'importe qui sur le plan continental.
Christian, vous pensez que réellement le match retour sera un match assez difficile pour les Sénégalais pour se qualifier, pour ne pas tomber dans jamais deux sans trois?
Je pense que ça va être dur pour le Sénégal. Honnêtement, là, c'était une victoire étriquée, tu l'as dit. Hein, ils ont réussi à marquer, à prendre une option en fin de rencontre. Mais je pense quand même que sur le match retour, je donnerais quand même un avantage à la Guinée, coach. Je pense que malheureusement, il n'y aura pas de jamais 203 et que la Guinée va réussir à renverser le résultat. J'espère que le Sénégal me fera mentir, mais je pense quand même que la Guinée a un peu plus de certitude malgré le résultat dans le style de l'équipe pour aller peut-être chercher ce but et renverser le résultat pour aller chercher la qualif. Mais en tout cas, ça fera encore une belle rencontre entre les deux nations. Et après, le Sénégal hein, quand même a pris une légère option avec ce but marqué en fin de rencontre, comme tu l'as dit.
Oui, à 87e minute. Hakim, oui. Alors ce match, vous l'avez vu, vous l'avez regardé comment ?
Moi, j'ai observé une sélection. Enfin, déjà, c'était d'une manière générale, c'était un beau match, coach Lamine, entre les Sénégalais et les Guinéens. C'est deux nations, effectivement, qui se connaissent bien au niveau footballistique. Et là où c'est intéressant, Lamine, c'est que le Sénégal, certes, a inscrit ce petit but d'avance à domicile, du côté de la terre des Teranga. Mais je pense que des Lions de la Teranga, mais je pense que là où ça va être difficile, c'est le déplacement à l'extérieur. Et méfiance du côté de la Guinée, je dirais, parce que un petit but, c'est pas joué effectivement d'avance, ce n'est pas terminé, le match va se jouer à l'extérieur. Faudra se méfier, mais voilà, les Sénégalais ont les moyens. On a vu effectivement un bien par rapport au football sénégalais et aux moyens qui ont été accordés au niveau du football local, et on le ressent, coach Lamine, d'un point de vue footballistique, d'un point de vue sportif. On ressent effectivement une bonne dynamique du côté du football sénégalais, avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui a apporté aussi beaucoup de bien au football local, mais notamment aussi à la ferveur locale, aux fans, à la jeunesse.
Oui, parce que faut rappeler que quand même, au sortir de la CAN, la Fédération sénégalaise de football a eu un bénéfice de 2 milliards.
Oh, ouais. Tout à fait.
Donc 2 milliards qui ont été divisés en ce sens qu'ils ont permis, ils ont redonné de l'argent donc au club pour que le championnat professionnel, la ligue professionnelle recommence à jouer.
C'est ça.
Et puis ensuite, ils ont commencé à en construire au niveau des différentes ligues des sièges sociaux.
Ça que c'est pas anodin, coach Lamine, de voir un score comme celui-ci. Maintenant, oui, on va jouer à l'extérieur du côté de la Guinée. Faudra se méfier, faudra faire attention. Mais voilà, partons positif pour cette sélection sénégalaise et ce championnat d'Afrique des Nations pour les Lions de la Teranga.
Oui, mais cet effort politique que le pays a fait par rapport au club, a fait qu'on voit de bons résultats. C'est ce que tu es parti voir au Bénin.
C'est ça.
Et c'est ce que le Bénin a fait. Quand les gens ont vu le Bénin, ils pensaient que c'est dû à un hasard. Non, parce qu'il y avait du travail.
Quart de finaliste.
Oui, mais parce que l'État béninois a donné beaucoup de sous au
beaucoup de moyens. C'est important.
Il y a quand même une chose où il faudra se méfier. C'est que la Guinée avait fait un déplacement en Côte d'Ivoire, en U20, il me semble.
Oui.
Et ils avaient battu la Côte d'Ivoire 1-0. Mais ils sont tellement confiants quand ils ont un résultat favorable que quand ils arrivent à Conakry, eh ben, ils jouent et ils se contrejouent.
Oui.
N'est-ce pas?
Et
ils ont été battus à Conakry par la Côte d'Ivoire qui les a éliminés.
C'est ça, c'est pour ça qu'il faut surtout pas, toutes les équipes qui ont remporté leur résultat par le plus petit score, 1-0, faut surtout pas arriver au match retour avec la mentalité de on a gagné, donc on a l'avantage. Oui, on a un avantage, mais c'est très léger. Un but, on a vu, hein. Paris en est l'exemple, ils en ont pris 4, ils en ont pris 6 derrière. Mmh. Donc un but, c'est pas suffisant. Ça donne un fauteuil, mais il faut jamais, surtout pas, c'est une erreur en sport de penser que le job est fait avec une victoire si courte.
Ouais. Nelson, vous êtes avec nous, bonsoir.
Bonsoir toute l'équipe.
Bonsoir Nelson.
Vous parlez, mais c'est vous ?
Ben nous, ça va.
Ça va, merci. Ça va.
Mais on merci. Est au complet.
Ok, alors c'est bien alors. Mais en fait, je vous appelle pour intervenir pour l'équipe du Mali.
Oui.
Oui. Je lance quand même un appel. Si l'équipe du Mali peut avoir un entraîneur, je dirais peut-être international, c'est-à-dire que voire peut-être même un européen.
Mais pourquoi ?
Parce que dans la... Ouais, parce que...
c'est fini, coach. Attends.
Parce que la Coupe d'Afrique passée, là...
Ouais. Ouais.
D'Afrique dernier, franchement, depuis le début de compétition, j'avais. Mes favoris, c'était le Mali, soit l'Algérie, vraiment, à 100%. Mm-hmm. Parce que les matchs qu'ils ont montrés en premier match, et puis deuxième match, ça a été. Bon, après, il y a eu la Côte d'Ivoire où ils ont vraiment dominé, mais ils n'ont pas eu la chance quand même de remporter ces matchs-là. Je trouve que c'est des jeunes qu'il faut les encourager, il faut un entraîneur expérimenté.
Et vous pensez que l'entraîneur qui est là-bas
il va pas jouer. Vous avez bien dit que ce sont les joueurs qui ont fait la faute en face de la Côte d'Ivoire. On a regardé le match et le Mali n'avait pas envie de battre la Côte d'Ivoire. Point final. C'est pas la faute au coach. Il va faire quoi, lui?
Parce que si je vois des changements, en fait, si je vois des changements, franchement, ça affaiblit l'équipe. Si vous avez bien regardé les matchs.
Oui, on a regardé.
Il fallait, en fait, si je parle de l'expérience, je parle de ce côté, en fait. Il faut... Il y a des joueurs qu'il faut les mettre des fois, il y a des joueurs qu'il faut les mettre sur le banc, il y a des joueurs qu'il faut... Voilà, c'est ça qu'il faut... C'est apprendre, c'est un métier qu'il faut apprendre.
Mais dites-moi, en fait, vous pensez que c'était la première fois que le coach était sur le banc et tous les entraîneurs étrangers, européens qui sont venus, ils ont quand même fait quelque chose pour l'équipe du Mali?
Bon, pas tout à fait.
Et alors, donc...
Ça dépend, c'était pas les mêmes équipes. Moi, j'ai parlé de cette génération.
Ouais, ben cette génération, ils étaient quoi?
Cette génération-là, si on leur donne, en fait, il y a l'entraîneur qu'il faut changer. Peut-être, mais après, il faut quand même les mettre en condition. Parce qu'il y a beaucoup qui sont pas. En fait, qui jouent pas en Europe, qui sont pas.
C'est parce qu'on joue en Europe qu'on est bon. Je vous comprends pas là.
Excusez-moi.
C'est parce qu'on joue en Europe qu'on est bon.
Excusez-moi. Non, mais en fait là, si on reprend le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations, plus de la moitié des entraîneurs étaient des sélectionneurs, des entraîneurs locaux. des entraîneurs de chacun des pays. On a vu Aliou Cissé, Belmadi, donc du côté du Mali également, du côté de la Côte d'Ivoire, la RDC, Florent Ibengué. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi donner la chance aux sélectionneurs et aux coachs locaux pour pouvoir justement emmener des sélections et les accompagner petit à petit vers un sacre ou vers même un bon bilan comme a pu le faire la sélection du Mali. On l'a dit pendant la Coupe d'Afrique Ligue des Nations, je sais pas si vous nous avez suivis, sûrement. On a parlé d'une sélection malienne qui a fait de très belles choses. Une sélection malienne qui est revenue sur le devant de la scène avec une moyenne d'âge effectivement de moins de 24 ans. Ça, faut le rappeler. Et le sélectionneur a fait avec un effectif, bien sûr, qui n'était pas évident, parce qu'on a vu le championnat malien qui était à l'arrêt pendant 2 ans faire ce qu'a fait le Mali avec un championnat qui est à l'arrêt pendant 2 ans. Je pense que c'est une belle performance.
Oui. Non, je dis pas le contraire.
Alors rapidement, Nelson, rapidement.
Pardon.
Je dis rapidement, parce qu'on a beaucoup de monde.
Je dis pas le contraire. Je veux juste dire que cet entraîneur là, je dis pas qu'il n'est pas bon. Hein, il est bon en fait.
Ouais. Donc pourquoi l'enlever?
Il n'y a pas de problème. Très bon, vraiment. Ça a été super.
Mais pourquoi vous voulez l'enlever alors?
Oui, mais en fait, des matchs comme ça, comme la Côte d'Ivoire, qu'on n'a jamais gagné, essaie de faire. Les changements qu'il a fait là, les remplacer, vraiment, c'est ça qui a tué le match.
D'accord.
Oui, après, c'est des choix qu'il faut respecter, Nelson.
C'est des choix vraiment qu'il ne faut pas. Je ne sais pas quoi vraiment il a fait. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut. Si c'était un entraîneur européen, par exemple, ils allaient pas les faire.
Voilà. Non, Nelson. Je ne suis pas d'accord.
Mais Nelson.
Alain Giresse a gagné quoi avec le Mali?
Nelson.
Oui.
Nous, on ne veut pas le changer. C'est notre ami. Voilà. Merci.
Merci Nelson. À bientôt.
Merci. En tout cas, dans l'autre affiche, le Mali a ramené le match nul de son déplacement en Mauritanie. La Mauritanie qui continue à nous étonner.
Oui, c'est ça.
0-0, un résultat favorable aux Aigles, malgré l'absence du but, de but marqué à l'extérieur. Tout se jouera à Bamako. Mais en tout cas, le fait d'aller jusqu'à Ouagadougou ou à Nouakchott pour faire match nul contre la Mauritanie, c'est un bon résultat.
Un très bon résultat, parce que la Mauritanie, on a vu ce qu'ils ont fait aussi. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de championnat. Il n'y a que la DE là-bas. Ils ont mis en place les juniors, les filles. Donc, ils ont fait du travail. Donc, s'ils arrivent à faire 0-0, parce qu'on l'a vu, leur match contre le Mali à la CAN, ils ont refait la même chose au niveau du CHAN. Ça veut dire qu'il y a un bon travail qui s'est fait. Et ils sont dans une continuité.
Ben oui, mais moi,
sauf
que ce sont des Sénégalais qui sont là-bas.
L'équipe de football, coach Lamine, locale de la Mauritanie, on avait entendu Brahim Sodenia, donc notre ami et directeur de la communication de la Fédération Mauritanienne de football, d'ailleurs que l'on salue, que je salue personnellement, puisqu'il s'est exprimé effectivement sur la préparation de la Mauritanie. Donc avant la Coupe d'Afrique des Nations, le football local mauritanien, pareil, c'est un peu comme coach Lamine, il y a eu énormément de moyens qui ont été accordés donc au football local du côté de la Mauritanie, et c'est vrai que ce score face à la sélection malienne, face aux Aigles du Mali, c'est un bon score. Pourquoi? Parce qu'on aura un match important et capital du côté de Bamako, où le Mali justement va accueillir la Mauritanie, et c'est là qu'on va voir si la Mauritanie, c'est un peu comme la rencontre entre l'Algérie et le Maroc. C'est là où on va voir effectivement si telle ou telle sélection peut tirer son épingle du jeu de ce CHAN. Et moi, je pense que la Mauritanie, elle se balade plutôt bien dans ces compétitions là parce qu'il y a un football local, comme le disait Willy, parce que on a un championnat qui se développe de petit à petit, et ça aussi, ça va être un match, je pense, intéressant, en tout cas dans le match retour, avec ce 0-0 à l'aller.
Voilà, messieurs, on va passer aux brèves africaines, hein, je veux dire.
Oui, coach, juste, excuse-moi, on m'envoie des messages, vous parlez pas du Togo, on a gagné. Donc, voilà, le Togo.
Ah, c'est pas moi qui l'ai mis, hein.
Le Togo, je salue les amis, ils se reconnaîtront qui m'ont envoyé ce texto. Donc, oui, le Togo a battu le Nigeria 4-1.
Non, ça c'est sur PlayStation.
Non, le Togo n'a pas battu le Nigeria, le Togo a écrasé le Nigeria.
Le Nigeria.
Il y a eu du
spectacle. Hein,
non, mais comment ils ont fait?
C'est simple. Il y avait Willy Dorkenou du côté du continent.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'était à Kégué.
Il était sur le banc.
Oui, donc c'est pas sur le banc. Mais.
4-1.
Les joueurs togolais sont en train de préparer la reprise du championnat, et il y avait eu un championnat. Donc, et ça se résume à ça. Parce que je vous ai dit, quand il y a un championnat, on a des joueurs qui, et des bons joueurs qui sont sur place.
Oui.
Donc, ça veut dire que le Togo a des bons joueurs sur place parce que, un, ils ont eu un championnat et ils sont en train de préparer la reprise du championnat.
Ouais, donc, il y a un sorcier blanc qui est là-bas en train de mettre des choses qui ne sont pas favorables.
Non, c'est
Jean-Paul Abalo.
Il n'est pas si blanc que ça. tu le connais bien. Notre ami Jean-Paul Abalo. Le touriste, je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est Jean-Paul Abalo qui a fait le travail.
Qui fait le job.
Mais en tout cas, coach, sur cette rencontre, moi, ce que j'ai apprécié, c'est le mental du Togo, puisque très honnêtement, au bout de 10-15 minutes, ils étaient menés 1-0.
Oui.
Et je me suis dit, oula, est-ce que ça va être la valise, Willy va faire la tête encore et tout, mais au final, ils ont fait le spectacle après, derrière, et ils ont bien joué. Et vraiment, ça faisait longtemps que j'avais vu le Togo, toutes sélections confondues. Salut à Serge au passage. Ça faisait longtemps que j'avais vu le Togo présenter cette prestation sur le terrain.
Je te jure, ils n'ont pas fait exprès.
Non, l'ami, il faut arrêter.
Je vous ai toujours dit autour de cette table qu'il n'y a que ça qui nous reste. Ce côté fighting spirit dû à un héritage du temps des Allemands qui fait que quand le Togo joue un match contre les grands, c'est-à-dire le Nigeria, c'est pas n'importe qui sur le terrain.
Surtout le championnat nigérien, c'est pas possible.
C'est ça. Donc le Togo se sublime à chaque fois.
Alors donc.
Bravo Togo. Bravo,
Serge, appelle-nous parce qu'on est étonné. Peut-être que c'est sur PlayStation et on veut nous tromper. En tout cas, 4-1 entre le Togo et le Nigeria. On a parlé de la Côte d'Ivoire aussi qui a perdu 2-0.
On a fait le tour.
On a parlé du Burkina Faso. Eux aussi, résultat favorable. Ils sont allés gagner au Ghana 1-0, Christian Chambon.
C'est ça, exactement.
On va en parler avec notre correspondant tout à l'heure, Adama Sourabier. En tout cas, on va parler de deux brèves qui nous ont étonnés par rapport à ce week-end-là aussi. Et c'est surtout la nomination d'un nouveau staff du côté de Conakry avec un Didier Six qui a été finalement choisi au détriment de certains entraîneurs. La liste était très longue et finalement c'est Didier Six qui a été il a été choisi et figurez-vous que son adjoint sera Kaba Diawara qui va quitter peut-être Canal Plus pour aller
consultant football et basket.
Et puis il y aura secondé par Manju Diallo, l'ancien coach du Fellow Star et du AFIA, passé par la sélection U20 avec laquelle il a été troisième à la CAN 2017 en Zambie. En outre, il y a Souleymane Camara, Abedi, qui a payé les frais de son élimination en U23. Conséquence, il est remplacé par un ancien entraîneur international guinéen. Il s'agit de Mori Fofana.
Exact, coach. Hein, c'est ça. Donc, il y a du remue-ménage.
Là-dessus, il faut peut-être remercier le président de la fédération qui a quand même osé mettre des anciens internationaux, doyen Uli, anciens internationaux à la tête de l'équipe nationale. Oui. À la tête, oui, adjoint, mais dans le staff technique de l'équipe nationale, il était temps.
Oui, c'est normal d'être dans le staff. On a vu, quand moi je voyage dans le monde entier, je vois tous les clubs, il y a toujours les anciens du club que je retrouve. Donc souvent en Afrique, la plupart du temps, et les anciens sont écartés de l'équipe. Parce que les jeunes qui jouent dans l'équipe savent l'histoire de ces anciens-là. Exactement. Donc et les liens et la suite, la culture du foot reste au niveau de l'équipe.
Il y a des repères.
Mais partout, quand on va parler de l'AYAS, par exemple, quand vous voyez l'AYAS, c'est pas un hasard ce que l'AYAS est à ce niveau. Mm-hmm. Parce que les anciens d'AYAS sont à côté des jeunes.
Alors, on va pas faire une pause et rapidement revenir et continuer par rapport à ces élections, mais c'est surtout ces nominations.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Sur Africa Radio avec le doyen Willy Derkenon de retour, avec Christian Chango de retour, Hakim Djelouat, pas de retour, lui il était là.
Champion d'Afrique, il faut préciser.
Champion d'Afrique avec
l'Algérie.
Enfin, coucou à la famille d'ailleurs.
Messieurs, on va continuer au football avec la Guinée et cette fois-ci, messieurs, on va parler de Bobo Baldé. John Bobo Baldé, c'est ça, comment il s'appelle?
Oui, c'est ça, John Bobo Baldé.
John Bobo Baldé, le défenseur de l'équipe nationale, du Sili National, et qui, lui, est sélectionneur de
Des U20, c'est
des ça U20, c'est pas mal ça ou non
ouais,
plus,
c'est,
hein.
Oui, c'est bien, mais comme pour rejoindre ce que disait Willy aussi, il fallait, donc il faut, tu as raison de féliciter le président.
Le président.
Il fallait un peu de renouveau et il a fait appel, pas à des touristes comme dirait Willy, mais à des hommes de confiance, à des hommes qui connaissent l'équipe, le championnat, le pays, des anciens internationaux. On voit aussi au niveau de l'entraîneur des gardiens de la sélection, c'est Kemoko Kamara, qui est l'entraîneur des gardiens du Oroya. Donc il y a une continuité là-dessus et c'est bien. On met un staff étoffé avec des gens qui sont là pour bosser.
Alors moi j'aimerais bien que des Guinéens nous appellent pour nous dire si vraiment le président Anthony Soare va les laisser travailler. Est-ce que la fédération va les laisser travailler et combien de temps devrait-on les laisser travailler pour qu'ils puissent sortir quelque chose. On a oublié des Fenduno, on a oublié des d'autres joueurs, ouais, d'autres anciens joueurs,
etc. Ils sont nombreux.
01-55-07-58-00 et puis par WhatsApp, bien sûr, si vous nous appelez de Conakry, 33-7-66-19-77-69. Oui, doyen.
Oui, ils sont nombreux, donc on a fait un choix, donc qui choisit et élimine. Mais le travail de M. Soare, on l'a vu déjà, son travail par rapport à son club, Oroya.
Oui, bien sûr.
Donc c'est quelqu'un qui aime le foot et qui s'investit énormément dans le foot. Donc des gens comme ça, c'est très intéressant d'avoir des gens comme ça au niveau de la fédération.
Mmh. Hakim, on peut dire.
Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose. Et puis on s'était entretenu avec coach Lamine, les dirigeants de ce club, et on voit les ambitions claires et précises.
Lui, c'est la Coupe d'Afrique.
Oui, c'est ça. Et puis c'est pas des ambitions effectivement. On va dire clairement, c'est pas des fausses ambitions. Et puis il y a effectivement des investissements qui sont faits aussi au niveau moyen financier, coach Lamine, au niveau infrastructure. C'est pas le plus petit club de la Guinée, non, bien au contraire. Et je pense que parmi tous les autres clubs qui sont présents en Coupe de la Confédération ou Ligue des Champions africaines, un club comme le Oroya a toute sa place, coach Lamine, cette année, pour pourquoi pas aller au plus haut et essayer de tirer un titre au niveau continental.
Alors la semaine dernière, on était tellement excités à l'idée que du côté du Cameroun, c'était le Magic Mboma, ouais, qu'on avait reçu, qui nous avait donné en exclusivité ici qu'il allait se présenter. Ouais. Il était candidat, ouais, comme sélectionneur. Finalement, au Cameroun, ce n'est pas lui qui a été choisi. C'est Tony Conceição, le nouveau sélecteur des Lions Indomptables. Monsieur Christian Chango.
Oui, je vous ai écouté. J'étais moi aussi un peu plutôt emballé par ce choix qui devait être fait. Finalement, là, on n'est jamais à l'abri, hein, dans le football, surtout du côté du football et de la fédé camerounaise. Et le choix s'est porté sur un autre sélectionneur. Maintenant, c'est fait. Il faut plus en débattre. Hein, maintenant qu'il est en place, il y a des objectifs à venir à court et moyen terme. Donc, on l'a vu déjà là du côté du Cameroun. Hein, il est déjà en place à Yaoundé. On l'a vu au boulot. Il a visité un peu les installations, tout pour voir un peu comment ça se faisait. Après, faut préciser, hein, comme adjoint, il a François Omanbiyik et Jacques Songo, donc qui sont ses adjoints. Donc, ouais, il s'est quand même entouré de membres de joueurs qui ont fait l'histoire aussi du football camerounais.
Exactement.
Et qui connaissent le Cameroun. Donc, on n'a pas mis celui qu'on pensait en place, mais il a su s'entourer, voilà, de François Omanbiyik et Jacques Songo, pour ne pas les citer. Donc,
ouais, François Omanbiyik et Jacques Songo.
Donc, c'est le choix est fait maintenant. Donc, à voir ce que ça va donner, en espérant qu'il lui laisse le temps aussi
de travailler.
C'est toujours ça, on a vu.
De toute façon, du côté du Cameroun, chaque fois que les entraîneurs changent par rapport à ce qu'on appelle les compétitions.
On a vu Seedorf et Kluivert, ils ont fait un an à peine. Il y avait du mieux, même s'ils se sont fait sortir. Et hop, derrière, on repart sur un nouveau cycle. Et encore une fois, même au-delà du Cameroun, c'est un problème qu'on a sur le continent,
oui,
de laisser du temps aux sélectionneurs en place. On en parlait tout à l'heure avec notre auditeur qui nous demandait à ce qu'on vire le sélectionneur malien. Laissons les gens en place, laissons-les travailler, ouais, laissons-leur du temps pour mettre les choses en place.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Tony Conceição, il a 57 ans et il va entraîner pour la première fois une sélection. C'est un ancien défenseur de Braga et du FC Porto, notamment dans les années 1980, ex-international portugais. Il n'a eu qu'une seule sélection. Et essentiellement coaché dans son pays et en Roumanie. Il a dirigé Cluj,
Ah, c'est le plus grand club roumain.
Ouais, je connais.
Plus, voilà. Oui, donc on essaie, on attend de voir.
On attend de voir. Hein,
on attend de voir.
Prochain match, c'est face à la Tunisie, le 12 octobre, pardon. Donc ce sera assez RDC. Donc on va voir déjà la liste qui donnera et est-ce que ça va donner.
Oui, mais c'est difficile de travailler aussi avec le Cameroun parce que ils ont gagné plein de choses sur le continent. Donc à chaque fois qu'il y a un faux pas, et l'entraîneur est critiqué.
Non, mais c'est ce que je dis.
C'est un peu compliqué parce que moi j'ai vu le cas de l'Algérie avec coach Baïd, on l'avait laissé, on a vu ce qu'ils ont fait en 2014 avec, donc il faut laisser un peu les entraîneurs, on ne veut pas les virer à chaque fois.
Non, mais pas les touristes quand même.
Oui, mais les touristes, on le voit qu'ils sont des touristes, ils font on fait du boucan autour, mais c'est des touristes.
On va aller du côté du Standard avec Abdou lui voudrait revenir sur la sélection de Guinée. Abdou, bonsoir.
Oui, bonsoir, coach. Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir, Abdou.
Oui, c'est Abou.
Abou, pardon.
Ah, Abou.
D'abord, je vous remercie très bien d'avoir donné toutes les infos que vous avez livrées là. Merci. À savoir la nomination de nos anciens internationaux. C'était juste ma question que je voulais depuis que j'ai appris la nomination du nouveau coach là.
Ouais. DJ Six.
Oui, parce que après Paul
Put
là, franchement. Moi, mon idée était que nos sélections africaines arrivent maintenant à choisir les anciens internationaux. Parce que pour moi, tout joueur guinéen qui voit qu'il est coaché par un Fenguno, par un Titi Camara, par un Salam Sow, par un Akabé, devant son palmarès, devant son passé, devant son nom, t'es obligé de l'écouter un peu style Aliou Cissé au Sénégal, quoi.
Même si on n'écoute pas...
Ce que vous appelez les touristes là, franchement, à un moment donné,
ça suffit.
Il faudrait que ça s'arrête.
Ouais.
Mais si le président de la fédération guinéenne, Antonio Soareux, commence déjà à nommer les anciens internationaux à ce niveau-là, peut-être qu'un jour ça touchera réellement la sélection nationale.
Mmh.
Ça, c'est une très bonne idée qui est en train de faire son chemin. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que franchement, moi, je préfère même à la rigueur, voir un ancien international sénégalais qui vient coacher en Guinée et vice-versa, un ancien international ivoirien qui vient coacher au Sénégal, ça c'est bien. Mais franchement, les gens qui ne connaissent ni le pays, ni la culture footballistique du pays, ils ne connaissent rien. Ils viennent, comme on avait signé l'ancien gars de Paris, là, Luis
Fernandez.
Mais Fernandez, qu'est-ce qu'il nous pompait là-bas?
L'ami du coach.
Même un seul match amical, il n'a pas pu faire dans le pays. Ouais. Il invitait nos joueurs ici dans les stades de Boulogne-Billancourt, je ne sais pas où, pour faire des matchs. Et après, le soir, lui-même, il était à Bein Sport.
C'est peut-être parce qu'il pleut beaucoup à Conakry.
Oui, coach. Mais en tout cas, merci à vous de nous avoir donné ces nouvelles-là par rapport à nos anciens internationaux.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à Antonio Soareux d'avoir vu ce côté-là.
Uh-huh.
J'espère qu'un jour, ça sera l'équipe première qui sera coachée par les anciens internationaux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'anciens internationaux guinéens qui souffrent, qui galèrent.
Oui, c'est vrai.
Qui galèrent parce qu'un poste de sélectionneur, ça les fera... Une entrée aussi de revenus.
Oui, tout à fait.
Parce qu'un mec qui a fait toute sa vie à jouer au football, souvent, ce n'est pas facile pour eux de se reconvertir homme d'affaires ou autre chose.
Ouais.
Donc, il faudrait que les présidents des fédérations nationales des pays africains sachent que à chaque fois qu'ils donnent un poste à un ancien international, ça lui fait un revenu. Parce que souvent, les anciennes générations, ils n'ont pas eu la chance d'épargner comme les joueurs de maintenant. Donc voilà quoi.
Voilà.
En tout cas, merci à vous.
Merci
d'avoir vu ce côté-là. Et merci à vous de nous donner les nouvelles de nos pays comme vous le faites chaque lundi soir.
Merci
et
beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Avec plaisir, Abou.
Oui, Shango.
Oui, je voulais dire en remerciant Abou, c'est vrai qu'il faut que les sélectionneurs locaux aient leur chance. Mais après, encore une fois, on en parlait avec le coach Nemba qui coach du côté du Sénégal. Encore une fois, je le répète, c'est une question de compétence. Il ne faut pas qu'on nomme un sélectionneur de la RDC parce qu'il est congolais. Il faut vraiment surtout mettre en avant la compétence. Évidemment que si on peut se passer des touristes, comme dirait Willy, il faut s'en passer. Mais c'est surtout la compétence qu'il faut mettre en avant avant de dire Belmadi, on le met parce qu'il est algérien, met Aliou Cissé parce qu'il est sénégalais. Non. C'est vraiment la compétence qu'il faut mettre en avant.
Moi, j'ai fait un tour à Conakry. C'est pourquoi j'embêtais un peu Abou en lui disant qu'il pleut trop à Conakry. Effectivement, il pleut beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a eu une réorganisation du football guinéen.
Ouais.
Vous avez Chérif Souleymane qui est directeur technique national.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Vous avez donc un championnat qui est... Ils ont tout nettoyé depuis la Coupe d'Afrique des Nations, qui a laissé des traces. Hein.
Ouais.
Je peux vous dire que ça a laissé des traces. Entre le vice-président de la fédération qui a été suspendu pour des malversations.
Ouais.
Avec Paul Put. Ils ont fait du business d'après ce qu'on dit pour sélectionner des joueurs qui devaient reverser de l'argent, des primes, etc., etc. Donc il y a eu vraiment un chaos dans le football guinéen.
Yeah,
et aujourd'hui on se rend compte que Didier Six des objectifs lui ont été clairement définis.
C'est bien, c'est normal.
Il a un contrat de 3 ans.
Ouais.
Voilà. Il doit qualifier l'équipe en Cannes.
Ouais.
Et en Coupe du Monde.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Ça, on c'est clair, c'est net.
Trois ans, il y a une ligne de conduite, il faut s'y tenir. On passe l'épisode guinéen avec l'ancien joueur et coach du PSG, Luis Fernandez. On a vu quand même que la Guinée, que ce soit en éliminatoire pour la CAN et même pendant la CAN, il y a quand même une belle équipe, il y a de la matière.
Ouais.
Et malheureusement, ils se sont crachés après, mais il y a du potentiel. Et donc, il faut continuer là-dessus et surtout pas gâcher ce qui a été mis en place depuis quelques années maintenant.
Hakim,
oui. Et c'est pas difficile qu'on demande à Didier Six, parce que demander à la Guinée et d'être qualifié à la CAN et d'aller à la Coupe du Monde, pour moi, la Guinée a les moyens de se qualifier pour ces deux s'ils sont bien préparés.
On lui donne 3 ans, ça quand même. Il y a de la tranquillité, on peut bosser sereinement. On sait qu'il n'y a pas à chaque match une épée Damoclès au-dessus de la tête. Là, il y a du temps, donc, et il y a du potentiel surtout.
Oui,
que ce soit dans le championnat et pour ceux qui sont aussi expatriés, qui jouent pour la sélection, il y a du championnat, il y a du potentiel, pardon. Donc, il faut vraiment que les Guinéens soient tous derrière leur équipe et leur équipe qui soit en championnat et la sélection.
Ouais. Alors, Didier Six, lui, connaît très bien le continent. Hein, son épouse, elle est africaine. Il a été adopté par le continent africain. On s'est rencontré avec Didier Six il y a quelques semaines du côté du Maroc. On a échangé, on a parlé. Il me parlait effectivement de ses ambitions pour revenir à la tête d'une sélection. Pas forcément. On n'a pas parlé forcément de la Guinée, mais en tout cas, on ressent effectivement ses ambitions et son envie de bien faire pour le football africain. On espère de tout cœur qu'il réussira à amener la Guinée au plus haut niveau.
Alors, en tout cas, s'il faut revenir sur le nouvel entraîneur du Cameroun, c'est que c'est le deuxième Portugais qui arrive à la tête de la sélection après Arthur Jorge.
Tout à fait.
Donc, en 2004 et 2006, si mes souvenirs sont exacts. En tout cas, on lui souhaite bonne chance, d'autant plus qu'il est encadré par des amis que nous connaissons bien.
Ouais.
François Omambik, dont le neveu vient de déclarer qu'il ne jouera plus en équipe nationale.
Encore une fois, une retraite
anticipée. Et puis de Jacques Songo.
Ouais.
Je m'imaginais bien.
Un
grand gardien. Donc voilà, je pense qu'on va leur souhaiter bonne chance. Alors, troisième brève qui est en train de se jouer là, actuellement.
Oui, c'est ça, coach, exact. C'est les trophées de la FIFA, les FIFA The Best Awards. Donc là, qui sont en cours actuellement. Donc on attend de savoir quel va être le joueur de l'année. Est-ce que ça va être Virgil van Dijk, le défenseur hollandais? Est-ce que ça va être Cristiano Ronaldo, l'international portugais, Lionel Messi? Malheureusement, ce ne sera pas un Africain. On sait qu'il y a beaucoup de voix qui ont poussé pour celui qui a été finaliste cette année du CHAN, qui a été vainqueur de la Ligue des Champions, qui a encore brillé ce week-end. On parle bien sûr de l'international sénégalais Mohamed Salah. Attends, c'est les Ghanais, pardon. Sadio Mané. Et malheureusement, lui, il fait pas partie des 3 finalistes. Au-delà, on a vu cette saison qu'il a fait, que ce soit en club et en championnat. Et avec la sélection aussi. Malheureusement, il n'en fait pas partie, tout comme son coéquipier Mohamed Salah aussi, qui a encore brillé. On les voit là tous les week-ends, toutes les semaines, même s'ils ont perdu en Ligue des Champions. Malheureusement, ils n'en font pas partie.
Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?
Pourquoi ? C'est la bonne question. Et juste un petit mot aussi, Khalidou Koulibaly, qui ne fait pas partie aussi des finalistes. La semaine dernière, il y a eu Naples-Liverpool en Ligue des Champions. C'est Khalidou Koulibaly qui a remporté le duel, qui a fait encore un match exceptionnel. Et petite indiscrétion là-dessus, il y avait les émirs, les yeux du Barça qui étaient en train de superviser Khalidou Koulibaly.
Non, mais écoute.
Mais oui, pourquoi ? Mais le problème, ceux qui votent, il faut voir ceux qui votent. Peut-être que dans les.
En fait, ceux qui votent, ce sont les capitaines d'équipe, les entraîneurs et les journalistes. Et voici les trois.
Il y a combien d'Africains dans le lot ?
Mais il y a toute l'Afrique.
Oui, mais des gens qui. Même, t'as pas vu un Africain qui dit que lui, il préfère un entraîneur européen qui vient de nous dire tout de suite. Il a même dit qu'il y a un joueur qui n'est pas bon parce qu'il ne joue pas en Europe. Donc, quand on aura l'impression de croire que tout se fait en Europe, moi, je voyage tout le temps dans le monde entier pour voir le football. Et c'est pas, tout ne se fait pas en Europe. Les gens veulent nous faire croire que tout se fait ici. C'est pas vrai.
Juste pour continuer, puisque je suis en même temps la cérémonie sur les réseaux sociaux, et on a Samuel Eto'o qui était invité d'honneur, et on lui a posé la question entre Messi, Van Dijk et Ronaldo, quel est votre favori ce soir pour le trophée FIFA du meilleur joueur ? La réponse de Samuel Eto'o, les meilleurs pour moi sont Mohamed Salah et Sadio Mané, mais bizarrement, ils ne sont pas là ce soir.
Ouais, voilà.
Ouais, mais c'est clair, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, et à chaque fois, mais parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Et si on nomme un Africain, c'est comme si on donne un prix au football africain. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour cette raison que quand nos joueurs sont ici, on veut nous faire comprendre que nos joueurs sont formés ici. Il n'y a pas un seul Africain qui était formé ici, sauf Didier Drogba. Donc, à chaque fois, on veut nous faire comprendre que rien ne se fait sur le continent. Et même les Africains aussi arrivent à croire ça.
Ben oui, si, on leur met ça dans la tête.
Oui.
Ouais.
Autre information encore là-dessus, c'est du direct. Hein. Donc, Jürgen Klopp a été élu coach de l'année. Et dans son discours, donc, il a félicité Van Dijk d'être dans les trois joueurs. Il a aussi précisé que dans son équipe, deux des meilleurs attaquants du monde ne sont pas dans la liste. Que le meilleur joueur de la finale de Ligue des Champions, Joël Matip, international camerounais, n'est pas aussi dans la liste. Donc c'était un petit clin d'œil de Jürgen Klopp à l'Afrique, exactement. Donc,
mais ça, finalement, ça devient ridicule au niveau de la FIFA.
Pas que la FIFA, c'est ridicule au niveau de l'Afrique. La façon dont les gens voient l'Afrique, c'est très ridicule. Et pourquoi on joue la CAN en juin? Simplement parce que pendant la CAN en janvier, le football européen est orphelin.
Oui.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos joueurs sont très importants ici. Mm-hmm. Le joueur africain, c'est eux qui font le football européen. Je donne un exemple. Le football portugais a été fait par des joueurs africains, par exemple.
Eusebio.
Le football français a été fait par des Africains. Et le premier trophée de Marseille, sans des Africains au sein de Marseille, ils ne gagneront jamais cette coupe. OK? Vous prenez le PSG. Sans des Africains comme Ngoti dans l'effectif, ils ne gagneront jamais la coupe.
Mmh.
Donc moi, je vais vous faire comprendre que ce sont les Africains qui font le football européen, pas l'inverse.
Oui, mais on est d'accord là-dessus. Mais le souci, c'est que qu'est-ce que ça a à voir avec ces élections-là où on a carrément boycotté des
Africains. C'est un message. On ne veut pas donner des prix au football africain parce que pour eux, le football africain n'existe pas.
Mais
c'est clair.
Bah, il faut quand même, pour Sadio Mané, notamment et Mohamed Salah, ils sont quand même reconnus dans un des plus grands championnats du monde. Pour beaucoup, c'est le plus grand championnat du monde, la Premier League. Après, c'est vrai que la question que pose le coach et la réponse que tu donnes sont des axes de réflexion. C'est vrai que c'est quand même étonnant que Mohamed Salah et Sadio Mané, les deux ils ont fini meilleurs buteurs du championnat anglais.
Ils sont classés combien là?
On va avoir le classement. Pour l'instant, c'est pas sorti encore. On va avoir le classement, mais
alors 0-55-07-58-0-0.
Et si tu choisis même la sélection, une sélection africaine, tu t'as pas la même cote.
Il faudra peut-être demander à la secrétaire générale de la FIFA elle tape du poing sur la table et qu'elle.
Mais le problème n'est pas là.
Il n'y a pas que la FIFA. Ganagay, par exemple, c'est lui qui fait le jeu contre le Real l'autre fois.
Non, mais c'est vrai que d'un point de vue, on en avait parlé ça aussi avec des auditeurs, alors, avec aussi Salim, on lui fait un clin d'œil s'il nous écoute. C'est souvent, et ça, faut pas le négliger, et c'est une vérité.
Oui.
Ils sont souvent effectivement moins bien payés. Nos chers joueurs africains que les autres.
Mais c'est pas le cas maintenant. C'est pas le cas maintenant.
Non, il commence à y avoir du changement, Lamine. Mais ce qu'on veut dire, c'est que il y a véritablement une différence de tarif quand on prend effectivement un joueur africain qui remporte par exemple une Ligue des Champions, une Coupe d'Afrique des Nations, etc., avec un joueur effectivement qui vient d'autres horizons. Maintenant, on se pose la question, donc ça commence un petit peu à bien faire. On entendait aussi la dernière fois sur une radio concurrente Nabil Djellit s'exprimer à ce sujet et qui disait aussi que c'est pas possible d'avoir des joueurs sous-cotés comme ça, alors qu'ils font l'appui et le beau temps du côté effectivement de leur club respectif et du côté de leur sélection. Lamine, à un moment donné, faut dire les choses comme elles sont.
On va aller du côté du Standard avec Ghislain. Ghislain, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir
Ghislain. Bonsoir Ghislain.
Oui, c'est pour intervenir dans l'émission.
Allez-y, on vous écoute.
Et en fait, tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur qui disait qu'il ne valorise pas le football africain.
Qui?
En fait, c'est pas qu'il valorise pas le football africain. Il faut que l'Africain lui-même, déjà, il valorise son football avant que les autres, ils le valorisent.
Oui,
si l'Africain, il le valorise pas.
Ouais.
Comment voulez-vous qu'une autre personne vienne le valoriser?
Mais c'est,
en
c'est...
Europe, quand vous voyez, mais quand vous voyez en Europe.
Ouais, mais c'est Ghislain. Ces Africains-là, ils jouent ici.
Oui.
Ils jouent ici. À quel moment, d'après vous, vous pensez qu'on ne doit pas les valoriser? Vous avez vu Ganagay lors de son match, avant qu'il ne vienne à Paris, personne n'en voulait. Et tout d'un coup, quand il est arrivé à Paris et qu'il a joué contre le Real de Madrid, c'est là qu'on le valorise. Est-ce que c'est normal?
Écoutez, vous savez, avant d'aller balayer chez le voisin, il faut déjà balayer chez toi.
Mais expliquez-vous.
On a tous les meilleurs joueurs du monde. On a tous les meilleurs joueurs du monde.
Oui.
Si ces joueurs-là, ils ne vont pas jouer dans nos championnats, quand vous regardez très bien les Brésiliens, une fois qu'ils ont fini leur carrière en Europe, ils font quoi? Ils retournent chez eux, ils jouent encore dans leur championnat avant de faire les jubilés. Mais quel Africain qui a fait ça dans ce monde? À part Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, c'est lui qui a joué en Europe et il a été joué encore à la fin.
Mais vous avez vu le niveau des clubs là-bas?
Comment vous voulez qu'il y ait un jeu si les joueurs qui sont forts en Europe, s'ils ne vont pas là-bas, comment voulez-vous qu'il y ait un jeu? Déjà, faut voir ce problème. Faut pas voir que les blancs ils font ça, ils font ces.
On n'a pas dit ça.
On n'a jamais dit ça.
Si, ce que vous dites, c'est ça.
Non, c'est vous qui dites ça, monsieur.
Mais c'est vous qui dites les blancs.
Ouais, laissez-le parler.
Ouais, mais c'est lui qui dit.
Laissez-le parler. Oui, allez-y, Ghislain.
Vous l'avez dit.
Non.
Vous l'avez dit sous-entendu, mais vous l'avez quand même dit.
Non.
Mais oui, déjà, il faut que les Africains valorisent leur football. S'ils ne le valorisent pas eux-mêmes, comment voulez-vous que les autres ils valorisent?
Alors dites-nous comment il faut valoriser un football.
Ghislain, avant de parler.
Ghislain.
Oui.
Est-ce que vous pouvez me dire comment on valorise un football?
Comment
on valorise un football?
Comment on valorise?
Comment on valorise un football?
Il faut que la fédération de football mette plus de moyens. En Europe, quand ils prennent des joueurs de 40, 50 millions d'euros. 100 millions d'euros.
Oh là, on a dit. On vous suit plus.
C'est que des clichés, tout ça. C'est que des clichés, on voit ça. C'est que des clichés. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ceci? On ne peut pas faire cela. Pourquoi on ne peut pas faire cela, nous, les Africains?
Moi, je ne l'ai pas bien suivi. Il y a eu des coupures. Est-ce que vous pouvez redire ce que vous nous avez dit?
Ce que je disais, je disais que quand vous voyez en Europe, les clubs, ils achètent des joueurs à des 100 millions, 50 millions, 80 millions.
Oui.
Quand ils achètent.
Oui.
C'est des clichés. Mmh. Le joueur, il a 20% dans tout ça. C'est des clichés. Pourquoi nous, en Afrique, on ne peut pas acheter un autre joueur d'un autre pays qui est fort, le ramener dans notre championnat pour qu'on le valorise? On ne le fait pas déjà nous-mêmes. Il faudrait déjà que nous-mêmes, on le fasse pour que tout se passe bien.
Bah oui, vous n'avez pas tort, mais allez-y, continuez.
Voilà, aussi on ne fait pas ça.
Moi, je pense, Ghislain, que c'est une question de moyens. Si vous avez un club qui veut valoriser son joueur en prenant un joueur du tout-puissant Mazembe à des 30-50 millions, il faudrait qu'il ait les moyens de pouvoir se l'acheter. Vous ne pensez pas?
Bah, les moyens pour les avoir, il faut comment en Europe?
Après, vous avez la télévision, vous avez beaucoup de choses.
C'est une question d'économie, c'est une question d'économie
du club
et d'économie de club.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, il faudrait que la fédération de football en Afrique elle mette les moyens. Si elle met pas les moyens, comment voulez-vous?
Ah, mais il y a une disparité, Ghislain, du côté du continent africain. Vous allez pas me dire que on va effectivement prendre un pays. Plutôt qu'un autre. Si on prend par exemple la RDC, la République démocratique du Congo, et on va prendre la République centrafricaine, qui se sont affrontés d'ailleurs à plus d'une reprise. Vous n'allez pas me dire que les moyens sont les mêmes en République centrafricaine et en RDC?
L'Africain, il essaie de copier les autres, mais il faut faire avec les moyens de bord.
Voilà, c'est ce qu'on essayait effectivement d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire à un moment donné, il faut faire avec les moyens que l'on a. La République centrafricaine ne pourra pas effectivement s'acheter, comme le disait le coach Lamine Badiane, un club de République centrafricaine ne pourra pas acheter un joueur à plus de 30, 40 ou 50 millions, alors que du côté de la République démocratique du Congo, comme des clubs, si on prend un club comme le Mazembe ou l'AS Vita Club ou le FC Renaissance ou d'autres, ils auront un petit peu plus de moyens. Maintenant, il faut effectivement, comme vous le dites, et là vous avez raison, on vous rejoint sur dans votre point de vue, c'est faire avec les moyens du bord. Mais on peut pas, c'est-à-dire avec peu de moyens, aller acquérir un joueur qui coûte plus cher que la valeur du club. C'est pas possible, c'est impossible.
En tout cas, on a bien compris ce que vous vouliez. De façon, les moyens. Ghislain, rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes pour la publicité. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout est une question de moyens. Vous savez, pour pouvoir avoir des clubs riches, il faut que la télévision y soit. La redistribution des publicités de la télévision pour les clubs, il y a beaucoup de choses qui font que les clubs, il y a une disparité au niveau de l'argent au niveau des clubs. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vous comprends très bien.
Merci. Merci beaucoup.
Il faudrait que l'Afrique se lève et mette les moyens. On a tous les moyens du monde.
Bon,
nous sommes les meilleurs du monde.
C'est ça. Merci.
D'accord.
Bien entendu.
Merci.
Merci beaucoup. Une pause. Allez.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Avec Christian Chango, avec le doyen Willy Dorkono, avec bien sûr Hakim Djelloua, tout ça pour vous décortiquer les championnats européens. Et nous commençons par... on va prendre quelqu'un au standard. Kanijo, c'est vous, bonsoir, avant qu'on attaque les championnats.
Je voulais apporter un démenti à l'auditeur précédent.
Oui, on vous écoute.
Quand il dit que les footballeurs africains, après leur carrière, ne retournent pas en général jouer sur le continent, et qu'il a donné un exemple, celui de Youssouf Fofana, c'est un très mauvais exemple. Youssouf Fofana n'est pas retourné jouer à la SEC, il est retourné administré au sein de la SEC Mimosa, en Côte d'Ivoire.
Tout à fait.
Les exemples des joueurs professionnels qui sont retournés, je ne pourrais pas citer tous les pays, mais le seul cas que je connais, c'est la Côte d'Ivoire. Je peux citer pêle-mêle Aristide Bancé, qui connaît Zezeto, qui après la carrière sont revenus jouer sur le continent.
Et Daniel Cousin, Daniel Cousin du Gabon aussi. Daniel Cousin.
Daniel Cousin. Ouais. Je vais prendre l'exemple de la version, la toute première version de la SEC Mimosa dans les années 90. C'était tous des anciens professionnels que Roger Ognien est venu chercher en France. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu la carrière de Drogba et Samuel Eto'o. Mais Gadi Sélie, qui était le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Ablaye Traoré, Diben Badi, il a fait ses classes à Metz, à Braga et je ne sais pas, je crois à Toulon à l'époque. Bédé James, je pourrais citer presque toute l'équipe de la SEC Mimosa de l'époque, qui était l'ouverture de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, championne de la Coupe d'Afrique en 1992. C'était tous des anciens professionnels.
Moussa Saïb qui est retourné en cabinet.
Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est une question de quand vous êtes professionnel et que vous avez un niveau de salaire quand même qui est plus important que quand vous repartez est-ce que c'est
de
la passion? C'est la part passion?
Non, je pense que parce qu'ils avaient échoué à s'imposer dans le football européen.
Oui, c'est OK. D'accord.
Roger Ognien, qui était à l'époque leur avocat, ou peut-être l'agent, leur a tous exhorté de retourner. Venez retourner, on dit quand on ne sait pas où on va.
On retourne d'où on vient.
Ah ouais.
Voilà, donc ils sont revenus, ils ont fait une très bonne carrière en Côte d'Ivoire. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois même la Coupe d'Afrique des clubs champions. avant d'être remplacés par la génération des académiciens. Ils sont revenus, ils avaient échoué par contre. Mais Aristide Bansé, il a fait une très bonne carrière en Allemagne, il est revenu. Zezeto, il a fait une très bonne carrière en Belgique et en Roumanie, il est revenu. Baki connaît, tout le monde sait la carrière qu'il a fait. Mais par contre, Youssouf Fofana, là, il a été à côté de la plaque. Maintenant, lorsqu'il dit que la plupart de nos joueurs africains, quand ils sortent, cela ne met pas le continent en avant. Regardez en France, presque tous les joueurs professionnels ils sont français. On regarde le statut de l'équipe de France, ils jouent dans le championnat étranger. On prend même l'exemple du Brésil qu'il a cité. Le Brésil est le premier pays exportateur de joueurs au monde.
C'est vrai.
Est-ce que cela veut dire que le Brésil ne met pas en valeur le football brésilien? Quand on n'a rien à dire, on se tait et on écoute les anciens parler.
Bon, mais
bonsoir à tout le monde.
Bonsoir. Anjo, mais c'est une radio tellement interactive qu'on laisse les gens donner leur avis.
Non, chacun peut s'exprimer.
Je veux parler pour parler parce que tu m'as entendu à la radio. Ah, c'est moi qui ai parlé là. Mais attendez, quand vous venez vous parler, informez les gens, ne désinformez pas.
Bon, ok.
Ne désinformez pas. C'est ce que je voulais lui dire. C'est un compatriote. Cher frère, quand tu veux parler, dis ce que tu sais, ne dis pas ce que tu ne sais pas.
Bon,
le message est passé. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci. Adama, petit, il est là, Adama, là ?
El Mejor.
Je suis là.
Il est où son jingle, Adama ? Il n'a pas son jingle, là.
El Mejor.
Mais non, mais il n'a pas.
Plein feu sur la Liga, sur Africa.
Mais il fait n'importe quoi.
Non.
Mais non, mais
après l'émission, elle va nous tous nous taper sur les doigts après, coach. Arrête. Hein.
Hola, Adama. Hola.
Hola, buenas noches, coach Lamine. Buenas noches.
Comment est-ce que
Hakim, buenas noches. Christian, buenas noches. Hélène, buenas noches.
C'est bon. Vous avez pu.
Oh, bienvenue
dans la meilleure Liga del Mundo. Bonsoir.
Ah non, mais attends.
À toutes les auditrices et auditeurs de la grande radio, Africa Radio.
Mais non, mais attends. Sois sérieux, Adama. Tu comment tu dis ça encore?
Meilleure
Liga del Mundo. Tu t'es pris 3-0 ici?
Mais non, mais coach Lamine, arrêtez. Eh bien, déjà, on connaît le champion du côté de la Ligue française. Mais chez nous, eh bien, le championnat commencera après la 15e journée. Voilà.
Et donc, les 3-0, c'était rien du tout?
Non, ils n'ont pas encore commencé.
Et puis, coach Lamine,
oui.
Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y a deux entraîneurs qui ne vont pas terminer la saison.
Oui.
Ouais.
Ça, oui. Ça, vous l'a dit. Il s'agit de Zidane.
Et Ernesto
Valverde.
Valverde.
Mais justement, alors là, on vous a appelé, mon cher ami, donc, un correspondant de l'Espagne.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe au Barça?
Défaite 2-0, hein, juste pour donner le résultat. Défaite 2-0 en championnat face à Granada ce week-end.
Le promu, tu n'as pas dit?
Oui, le promu. Mais coach. Doyen Willy, Christian, ouais. Hakim, il y a un malaise. Il y a un malaise, mais personne n'ose déclarer ce malaise.
Mais dû à quoi?
Coach Lamine, je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que Ernesto, il a fait son temps. Il a apporté tout ce qu'il pouvait apporter au Football Club de Barcelone. Aujourd'hui, Ernesto, il commence à être un peu décrié du coup dans les vestiaires. Encore, je dirais que c'est un monsieur poli, donc on ne veut pas trop le forcer la main. Donc Ernesto Valverde, avec Messi, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Le Barça ne va pas bien. Le Barça est malade.
Mais oui, mais c'est trop facile.
Est méconnaissable.
Oui, mais c'est trop facile de taper sur Valverde. Il est là depuis plus de 2 ans, même si ça ne va pas. Alors 3 ans. Oui.
Mais vous saviez, coach Lamine, doyen Willy, le Barça a des difficultés pour se remettre de la déconfiture qu'elle a connue en Champions League. Ça veut dire, je ne parle pas de la saison dernière, de la saison d'avant et de la saison dernière. Et même le footballeur du Football Club de Barcelone n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas pu franchir cette étape. Donc le malaise, je pense qu'il faut du sang neuf, il faut du renouveau. Quand vous regardez demain la liste de convoquer, il y a un certain Rakitić qui ne serait pas là, alors que c'est l'ami d'un certain Lionel Messi, c'est l'ami d'un certain Suarez. Voilà, Ernesto veut apporter du sang neuf, mais dans chaque club, il y a un cordon ombilical. Il ne faut pas jeter ce cordon ombilical n'importe où. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je crois savoir que le match de demain, le Barça contre Villarreal, si ça se passe mal, ça m'étonnerait que Ernesto puisse avoir encore une longue vie sur la tête du football club de Barcelone.
Ouais, mais
parce
bon.
Qu'il y a un certain Xabi qui est en train de se préparer dans l'ombre.
Vous allez prendre Xabi?
Moi, c'est pas moi qui va le prendre. Moi, je suis journaliste.
Oui, mais je crois qu'on... Doyen Willy, Hakim et Christian Chango, moi, à mon avis, c'est qu'on pointe du doigt un monsieur qui, depuis plus de 2 ans, est là et a gagné certaines choses.
Ouais.
C'est, aujourd'hui, ça ne va pas. Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi si ce n'est pas du côté des recrues où ça ne va pas, il y a Griezmann, il y a eu non seulement des recrues qui sont en période d'adaptation, ils ne sont pas encore dans le bain, il y a des joueurs qui sont complètement individuels, je veux dire qui le garçon Ansu Fati qui court comme un lapin, il ne s'est pas encore intégré.
Il est trop jeune,
C'est ça.
Il a 16 ans, coach Lamy.
À 16 ans, s'il joue, il doit s'intégrer dans le système.
Je te laisse finir, coach.
Non, mais tu peux y aller.
Non, mais en fait, c'est ça le souci. Moi, je trouve que, encore une fois, de toute façon, dans le foot, quand il y a un souci, on le sait tous, autour de la table, le fusible, c'est l'entraîneur en premier. C'est l'entraîneur qu'on fait sauter qui est le premier menacé. Avant tout, il y a les joueurs, il y a ceux qui sont sur le terrain. Donc c'est les joueurs, donc les 11 et ceux qui sont sur le banc. Il y a ceux qui dirigent aussi, ceux qui font le recrutement, le président, ceux qui font le scouting aussi, c'est eux qui doivent. Et il y a les formateurs en dernier, pour prendre l'exemple de Barcelone, vu qu'on parle du Barça, la Masia. Là, ils ont réussi à sortir il y a une fuite des talents, ils ont réussi à conserver le jeune Ansu Fati.
Ils en ont sorti quelques-uns,
voilà. Mais c'est difficile pour eux de s'intégrer. Alors le souci, où est-ce qu'il est? C'est simple, c'est pour moi, c'est l'entraîneur, s'il y a un souci, l'entraîneur, il est à 10-15%. Le reste, c'est les joueurs.
Ouais.
C'est eux qui sont sur le terrain. Et on parle de Messi. Messi, il n'est pas là. Sur les derniers matchs, il n'est pas là. Et l'équipe n'arrive plus à jouer. Pourtant, c'est tous il y a des champions du monde, des multi-champions d'Europe. Et pourquoi eux, ils n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités? On se retrouve à mettre la pression sur un gamin de 16 ans qui vient de rentrer. C'est pas lui qui va résoudre les problèmes de Barcelone.
Non, mais Christian, quand je l'amène, Doyen Willy, juste, je vais vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, je pense que du côté de la France, et que les Français doivent commencer à s'inquiéter de l'avenir d'Antoine. Puisque Antoine aujourd'hui...
Quel Antoine? Griezmann.
Ah ouais, d'accord. Oui, Griezmann. Antoine est arrivé dans la grande porte. Il est arrivé comme s'il avait été imposé. Il y a encore, au niveau du vestiaire, il y a un certain nombre de footballeurs du football club de Barcelone qui n'ont pas digéré encore
Neymar.
Ce documentaire et ses déclarations de la saison dernière. Quand,
il va s'asseoir sur la même table.
Voilà. Et aujourd'hui, Antoine, moi, j'ai un peu pitié à ce garçon quand je le vois, comment il veut bien faire, comment il se bat, mais ça n'arrive pas. Mais on ne le place pas dans les bonnes conditions pour qu'il puisse être le Antoine Griezmann qu'on connaît. Regardez les rencontres du football club de Barcelone. Et surtout, à chaque journée, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oui, Antoine, il n'a pas bien tourné. Mais aujourd'hui, Valverde a donné un ultimatum à Antoine. Mais je crains de le voir passer comme un certain Good Johnson, Maxi Lopez à l'époque, du football club de Barcelone, qui sont arrivés pour donner du sang neuf à cette équipe.
Oui, mais Antoine, mais c'est normal. Non, mais Antoine ne joue pas défenseur.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
Aujourd'hui, l'équipe de Barcelone, en 5 matchs, a encaissé 9 buts. Ouais. C'est la pire défense du championnat actuellement. Antoine Griezmann.
Ça fait 18 ans que le Barça n'a pas connu ça.
Alors, donc, c'est pas à Griezmann qu'il joue attaquant qu'on va reprocher quoi que ce soit en disant que c'est la faute est sur lui aussi, etc., etc. Je veux dire qu'il y a des joueurs comme De Jong qui n'a encore rien fait. Il y a un défenseur Junior Firpo qui est derrière. Il n'a rien fait. Donc, je veux dire que non seulement il y a une défense, une fragilité défensive, et il y a des recrues qui ne sont pas encore au point. Donc, le Barça, c'est
ils
un tout.
Rodage.
Ouais, ils sont en rodage. Non, c'est un tout. On ne peut pas parler. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de parler.
Il ne faut pas écarter les anciens comme ça.
Quels anciens?
Il faut garder la colonne vertébrale.
Oui, mais cette colonne vertébrale, elle n'existe plus.
Ouais, mais les anciens sont cramés parce que ce qui se passe en Espagne, c'est la même chose qui se passe au niveau de ces deux clubs, le Real et le Barça. Ce sont des joueurs qu'on utilise tout le temps. C'est vrai, ce sont des grands joueurs, mais pour essayer d'équilibrer l'équipe, il faut faire de bons recrutements. Donc on avait ajouté à ces joueurs cramés des joueurs qui sont moyens. Comme Griezmann, dont on va vous parler, il a toujours été un joueur
mais
moyen.
Mais tu gonflé là.
Oh, mais je te le dis, sois en sérieux.
Mais non, doyen.
Il fait quoi là-bas?
Griezmann, c'est dur pour l'instant.
C'est un champion du
monde. Mais c'est clair ce que je dis. Ma grand-mère aussi peut être champion du monde aussi. On a vu, Giroud, il est champion du monde, non?
Mais sans avoir marqué un but.
Alors, mais sois sérieux. Et toi, tu viens du foot et tu raisonnes comme ça. Et mon frère.
Merci de ton retour après les vacances. Hein.
Ouais, mais tu viens du foot et tu raisonnes parce que le mec, il est champion du monde.
Non, mais après, non, c'est vrai.
C'est la copie que tu présentes qui compte.
Je
pense qu'il faut donner du temps. Mais dans les clubs comme le Barça ou comme le Real.
On est à 5 jours.
Ils sont 4e. Je vais donner du temps. Ils sont 4e. Et en Espagne, quand tu es 4e, et pour revenir, ça va être compliqué après.
Il y a combien de points là actuellement? De toute façon, c'est la même chose. On va parler du Real de Madrid.
C'est
la même chose.
Sauf qu'en championnat, ça va un peu mieux quand même.
Oui, mais il s'est mangé cette défaite.
Mais attends, à Séville, s'il ne tenait qu'à Benzema.
Bien sûr.
Heureusement qu'il est là.
Adama, après, tu sais très bien qu'au Piz Juan, c'est toujours difficile pour toutes les équipes. Hein.
Je le sais, mais tant que Karim Benzema n'est pas en forme, le Real est malade.
Bah,
Karim Benzema, il ne pourra pas être en forme toute la saison quand même.
Adama, de toute façon, pour là, vu qu'on parle du Real, avant que je laisse Hakim reprendre le ballon, je voulais dire, est-ce que pour le Real, finalement, depuis que Ronaldo est parti, est-ce qu'ils ont réussi à se remettre de ça, le Real? Puisque là, on a vu cet été, ils ont mis beaucoup d'argent. Est-ce que le départ de Ronaldo, 50 buts par saison minimum, 20 passes décisives, est-ce qu'il a été comblé?
Non.
Non.
Je pourrais vous dire que non.
Alors
vous saviez, il y a des figures dans le monde du football aujourd'hui, quand on le veut ou pas, on ne peut pas gommer un certain Cristiano Ronaldo et un Lionel Messi. Ils ont marqué, sur les 15 dernières années, le football mondial. On ne peut pas remplacer si facilement ces personnes. Aujourd'hui, le Real tourne de temps à autre grâce à des purs individualismes comme Karim Benzema. Sinon, le Real n'existe pas. Christian, vous venez de dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Mais ils ont mis beaucoup d'argent. Comment mettre beaucoup d'argent en prenant un joueur qui arrive avec 6 kilos? Dites-moi.
Tu veux parler de
c'est une bonne affaire.
Tu veux parler de Hazard?
Ah ben, Coach Lamine, vous êtes mon doyen, donc si ça sort de votre bouche, ben ça me fait plaisir.
Non mais Hazard, même quand il est malade, il est bon. Arrêtez-moi vos conneries là.
Non, Coach Lamine.
Vous allez voir.
Willy. 6 kilos pour un joueur professionnel.
Ça peut arriver.
Ouais.
Hakim.
Real.
Hakim.
Ouais.
On nous inquiète là du côté de Marseille.
Zinedine Zidane.
Ouais. On nous dit que Zinedine Zidane va être viré.
Il va pas terminer la saison à la tête de la Casablanca. Ni Ernesto.
Ah.
Non. Mais moi, je pense que c'est bon. On en est au début de saison, Coach Lamine.
Ouais.
Alors, certes, quelques jours après la lourde défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Real Madrid doit absolument revenir. Donc il l'a fait de la plus belle des manières, grâce notamment à un but de Benzema face au FC Séville. Je pense que, comme l'a souligné pour la plupart des spécialistes ici sur ce plateau, il est important que on tend souvent la responsabilité coach Lamine au coach, enfin sans faire de jeu de mots, enfin ouais. On tend souvent la responsabilité Lamine, tu vois, à l'entraîneur, au coach, et c'est vrai que la meilleure des réponses qu'a pu offrir le Real Madrid de Zinedine Zidane suite à la défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, même si ça reste qu'un premier match, eh bien c'est cette victoire donc sur la pelouse du FC Séville 1-0 grâce notamment à un but de Benzema. Après, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure concernant le départ de Cristiano, est-ce qu'il a été comblé? Effectivement, on en a parlé il y a 2 ans, et le départ de Cristiano Ronaldo a énormément fait de mal à la Casablanca, même si effectivement Karim Benzema endosse la responsabilité de l'attaquant, on va dire, phare de cette équipe, et qui réussit à débloquer des situations comme il a pu le faire le week-end dernier face au FC Séville. Après, moi je dis, faut pas s'alarmer, Lamine, faut pas paniquer. C'est le début de saison, c'est vrai. La lourde défaite face au Paris Saint-Germain, la pilule a été dure à avaler. Mais voilà, faut repartir au boulot. Ils sont professionnels. Zinedine Zidane est professionnel. Il a remporté 3 Ligues des Champions. Zinedine Zidane et voilà. Maintenant, il va falloir revenir effectivement en championnat pour pouvoir reprendre un petit peu la marche dans le droit chemin. Et je pense qu'ils peuvent le faire.
Bon, comment on dit courage en arabe?
En arabe, on peut dire Yate Saha, hein, on peut le dire comme ça.
Adama, tu diras à Zidane Yate Saha.
Oui, coach Lamine, ce que Hakim est en train de dire, c'est vrai que ces équipes-là vont revenir.
Ouais.
Elles vont revenir, mais de quelle manière? Avec tout le talent qu'ils ont au sein de leur groupe. Et à un moment donné, les équipes soi-disant moyennes, ils s'épuisent par rapport, comme on dit en Espagne, à la plantilla, hein, ça veut dire la réserve de l'équipe, elles viendront à s'épuiser, et ces équipes-là, comme le Barça ou le Real de Madrid, vont revenir à la charge, et ils vont terminer sur le podium de la Liga.
Mais
moi, je dirais attention à ces deux équipes, hein, à ces deux équipes très connues à travers le monde, qu'en Champions League, ça ne va pas le faire. Ces deux équipes qui sont à perte de vitesse. Il ne faut pas se voiler la face.
Quel a été le résultat de Barcelone d'ailleurs?
Ils ont perdu.
Non, ils ont fait match nul.
Non, en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions, ils ont fait match nul. Voilà. Et moi, aujourd'hui, qu'on dise tout ce qu'on veut, ces équipes, que ce soit du côté du Barça ou de Madrid, ils ont dépensé chacune plus de 100 millions. Plus de 100 millions, ouais. Si je ne m'abuse, on sort les calculettes.
Ouais.
C'est plus que ça. Donc, ça veut dire que c'est des équipes qui doivent être capables, qui ont plus que le budget de Granada.
On a vu leur classement.
Après, on a vu. Hein. Barcelone, rien que sur Griezmann, ils ont mis 120. Et le Real, ils ont mis 100 sur Eden Hazard. Donc, rien que sur
quelques
joueurs.
Mais c'est peut-être pas ces joueurs-là que voulait Zidane.
Zizou, il voulait Paul Pogba, par exemple.
Il voulait Pogba et on lui a pas donné Paul. Et il voulait son fils, on lui a pas donné son fils.
Le bidon.
Ben voilà, Bartolomeo n'a qu'à aller au diable.
Les clés du camion, le bidon d'essence.
Florentino Pérez, on va le.
Florentino Pérez, c'est pas un président.
Non, mais
monsieur,
je crains que le Barça tombe dans les années.
Comme dans les années 2000, un peu.
Le couloir de l'Italie, il y a 10 ans en arrière, où le calcio était un championnat qui était au-dessus de tout. J'ai l'impression que nous sommes la meilleure Liga del Mundo.
C'est ça, dans tes rêves là maintenant. Hein. Dans tes rêves maintenant. Adama, reste avec nous, on va finir cette émission. Il nous reste quoi, 5 minutes? Christian Chango, quelques petites brèves. J'ai eu l'impression d'avoir lu quelque part que bientôt ce seront les élections à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football.
Oui.
Et qu'on a vu un certain Didier Drogba peut-être candidat. Peut-être,
ouais. Exact, hein, c'est ça, ça va arriver là, dans les jours, dans les semaines à venir. Donc il va y avoir un peu de remue-ménage du côté de la FIF, de la Fédération Ivoirienne de Football. Et c'est vrai que tu as les bonnes infos, coach. Il se murmure que que Didier Drogba, une des étoiles les plus brillantes du football ivoirien et du football mondial, pourrait peut-être briguer la présidence après avoir avec qui il sera entouré et tout. Mais c'est vrai que les bruits courent que de plus en plus que ça devrait se, il devrait peut-être se présenter. Président Kimdele, je te salue si tu nous écoutes. Je sais que t'es dans les tuyaux aussi, donc n'hésite pas à nous appeler pour nous donner les informations.
C'est un mytho, lui.
Non, c'est pas un mytho, il a des infos vraiment.
Oh, quelles infos! Non, c'est pas possible.
Moi, j'ai bu du champagne avec lui au PSG. Non.
Alors, où ça? Dans la corbeille?
Dans les loges.
Oh, dans la corbeille, non, attends.
Mais j'étais là.
T'as vu Willy, tu l'as vu en photo sur les réseaux.
Rigole pas.
C'est la corbeille. Hein. C'est la corbeille ou rien.
Alors.
Non, une chose est sûre, c'est que actuellement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de retraites là, hein, ouais. N'est-ce pas?
Oui.
Eto'o retraité, qu'est-ce qu'il va faire?
Oui, mais la semaine prochaine, je pense qu'on l'aura, hein, parce qu'il faut qu'on travaille pour qu'il soit avec nous.
Ben oui, on lui posera la question pourquoi il s'en va alors qu'il peut encore jouer. Hein.
Ouais, bah, écoute, le premier entraîneur noir du côté de la Liga espagnole.
Bah, sur quelle équipe là?
Getafe?
Mallorca, peut-être.
Peut-être Mallorca.
Oui, Mallorca. Ouais.
Justement, coach, là tu me tends la perche là, en parlant de Samuel Eto'o. Je regardais donc là en suivant toujours la cérémonie The Best. Donc Samuel Eto'o qui s'exprimait un peu sur donc sur sa retraite. Donc en gros il disait que ça y est, hein, il avait donné tout ce qu'il avait à donner et que maintenant une nouvelle carrière va commencer pour lui. Il repart de zéro avec les mêmes ambitions qu'il avait quand il a commencé à jouer au football sur le terrain. Donc effectivement, peut-être futur entraîneur, futur dirigeant, on ne sait pas. Mais en tout cas, Samuel Eto'o a une forte ambition et Adama, tu pourras nous le confirmer quand on l'aura dans quelques semaines avec nous au téléphone en direct de l'émission.
Il veut rester dans le foot.
Oui, bien sûr, ça c'est une évidence.
Oui, mais bon, c'est important qu'il reste dans le foot.
Oui,
il est obligé.
Oui,
moi, dans les coulisses, il m'a fait savoir qu'il veut être le premier
entraîneur
noir à remporter une Champions League à la tête d'une équipe européenne.
C'est vrai.
Une bonne ambition, ça.
Oui, bonne ambition.
Ouais.
Ouais, c'est clair.
Ah ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que moi, bon, qu'il soit entraîneur de Barcelone, ça c'est. À la limite, c'est son problème. Mais,
ouais.
Mais qu'il soit impliqué dans le football camerounais. Africain. C'est ça qui est plus important pour moi.
Ouais.
Africain et camerounais en l'occurrence.
Ouais.
Parce que en 2000, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est au Cameroun.
Ouais.
Il faudrait que Eto'o joue un rôle là-dedans. Je ne sais pas quel rôle, mais il faudrait qu'il... Ouais. Il ne peut pas avoir gagné tout ça.
Ambassadeur. Bien sûr.
Gagner tout ça et se retrouver en dehors de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Après, coach, tu l'as dit, on en parlait tout à l'heure, au niveau du football camerounais, on sait que c'est toujours tangent, ça fluctue tout le temps. On l'a vu, un des plus grands joueurs du football africain et football mondial, Roger Milla, par exemple, aussi, on a vu avec, que ce soit avec la fédération, avec les équipes, c'est toujours eu des complications pour intégrer ces illustres joueurs. Donc, tout Samuel Eto'o qu'il est, évidemment, je pense la même chose que toi là-dessus. J'aimerais vraiment que ce soit un acteur majeur du football, de la reconstruction du football camerounais.
Ouais.
Après, est-ce que le football camerounais est prêt à ça? C'est ça le problème,
t'as
toujours
raison.
Du mal
Antoine
à les intégrer.
Belle, Antoine
exactement.
Belle,
Roger Milla. On a vu toutes ces générations-là, ça a toujours été compliqué. Donc moi, je partage totalement ton avis là-dessus. Mais c'est vrai que là-dessus, on a eu des exemples au niveau du football camerounais où c'est parfois compliqué.
Messieurs, il nous reste quoi? 1 minute 30. Hakim, dernier mot. On fait un tour de table.
Non, bah, saluer effectivement toutes les performances là qu'on a citées tout à l'heure en première partie. Pour en rappel, hein, le championnat d'Afrique des Nations avec les matchs retour qui auront lieu entre le 15 et le 18 octobre. Ça, c'est important pour nos auditeurs et nos auditrices. Et puis, saluer le retour de toute l'équipe, coach Lamine,
un plaisir,
avec toi, Christian, Willy, Hélène, toute l'équipe de Tout Feu Tout Foot au complet.
Adams.
Et Adama, bien sûr, Sourabier, et tous les correspondants aussi. Hein. On pense aussi à Adama Sourabier, depuis l'Espagne, et Marco Momo, depuis la République démocratique du Congo, et Dipita, depuis le Cameroun.
Oui.
Oui, un dernier mot, deux informations, on en a déjà parlé tout à l'heure. Le Brésil affrontera le Sénégal le 10 octobre et le Nigeria le 13 octobre. Et je reçois beaucoup de messages, donc je salue Isaac, Bertrand, Arnaud, toute l'équipe. L'Algérie affrontera la RD Congo le 10 octobre. Je reçois beaucoup, beaucoup de textos, ça y est, c'est tombé, c'est officiel. Donc...
Et où ça, où ça?
Ils vont s'affronter ici, du côté de la France. On... Ah non, pas à Blida, excusez-moi, c'est à Blida qui s'affronte. Et le 15 octobre,
ouais, pourquoi pas,
et le 15 octobre, l'Algérie affronte la Colombie à Lille cette fois.
Exactement. Ah
ben, donc,
ça va être une belle rencontre.
À tous mes DZ, hein, je vous salue les gars, on va s'attraper très vite.
Enfin, coucou à ma femme au passage. Hein, parce que elle est d'origine de Colombie.
Non, mais tu avais peur que.
Colombie, c'est une belle affiche.
Il avait peur que sa femme se dise, ah, il n'est pas à la radio. Parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Doyen, alors.
Oui.
Là, si tu repars, tu es viré.
Non, je ne repars plus. Je reste.
Merci à tout le monde. Restez fidèles à la suite de nos programmes avec Fatou. Fatou.
Est-ce qu'elle va?
Eh ben où?
Elle va au Mali. Au Mali.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.